بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إخواني في الله، نغمسون الله عز وجل qui nous accepte ce soir de nous réunir quelques instants pour étudier une parole de Al-Habib Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pour rappel, on avait commencé depuis quelques lundis le chapitre de Riyad al-Salihin concernant la confiance en Allah, l'importance de la conviction que nous devons avoir en notre Seigneur, et cela nous amène vers une confiance totale en Allah Azza wa Jal. On avait vu le principe de tawakkul ala Allah et le principe de yaqin, et on avait vu quelques illustrations de nos pieux prédécesseurs à travers des événements Khandaq et à travers Uhud, des événements difficiles à travers lesquels les Sahaba radiyallahu anhum ajma'in se sont illustrés, et ils ont montré comment est-ce qu'ils avaient confiance en Allah Azza wa Jal. Donc il y a d'un côté le discours et il y a de l'autre côté le modèle prophétique et le modèle qui est, on va dire, un peu plus à notre portée, le modèle des Sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Et là on voit toute la sagesse d'Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir donné à notre prophète alayhi salatu wa salam un nombre de compagnons, un nombre de Sahaba que les autres prophètes n'avaient pas eu. Un nombre de sahaba fidèles, de fidèles sahaba que les autres prophètes n'avaient pas eu. Peut-être Moussa alayhi salam avait, sans le moindre doute, beaucoup de personnes qui le suivaient parmi les Banu Israël. Isa alayhi salam, Jésus avait des apôtres. Mais le nombre de proches, de personnes qui étaient autour de Isa alayhi salam, ça se limitait à une douzaine de personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam était entouré de plus de 100 000 sahaba lors du pèlerinage, le pèlerinage d'adieu. Et mis à part ces personnes qui ont vu le prophète pour la première fois lors du pèlerinage d'adieu, il y a un grand nombre de sahaba qui fréquentaient régulièrement le prophète alayhi salatu wassalam, qui donc constituaient les soukhan, les habitants de Madina, tant parmi les ansar que parmi les muhajirin. Si on devait dresser une liste de 200 sahaba ou 300 sahaba, ça se ferait avec une grande aisance. Et chacun de ces sahaba ayant des riwayas, ayant des narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a qu'à regarder dans les livres de biographie des sahaba et également les ouvrages où il y a les narrateurs de hadith, et on peut retrouver le nom des sahaba par l'ordre alphabétique, et ça nous ramène vers des milliers de sahaba. Et chaque sahaba était proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutait ses paroles, mettait en pratique et le propageait. Et donc, la hikmah d'Allah, c'est qu'il y a certes le modèle à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais nous savons parfaitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme qui est parfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un homme parfait. Le prophète alayhi salatu wa sallam ne commet aucun péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se trompe jamais. Le prophète alayhi salatu wa sallam représente la perfection humaine, parce que tout ce qu'il dit et chaque fait et geste vient d'Allah Azza wa Jal. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prononçait une parole qui venait de lui-même. Quand il disait quelque chose, c'était l'inspiration d'Allah Azza wa Jal. Après cette inspiration d'Allah, on peut distinguer deux catégories. Il y a la parole d'Allah, le Coran. Et ça ne vient pas de personne. Bien sûr, c'est la parole d'Allah révélée par l'intermédiaire de l'ange Jibril alayhi salam sur le prophète alayhi salatu wassalam, qui, lorsqu'il l'écoutait de l'ange Jibril alayhi salam, le mémorisait immédiatement, sans jamais oublier un mot. Et ça fait partie du miracle prophétique. le Coran, le nombre de versets, plus de 6500 versets, le prophète alayhi salat wa salam les a mémorisés sans jamais oublier un verset et sans jamais mélanger un verset. Et avec une telle maîtrise qu'il était capable de dire aux sahaba, le verset qui m'a été révélé aujourd'hui, vous allez le placer dans le mushaf que vous compilez, que vous gardez, placez-le dans tel chapitre à tel endroit. C'est-à-dire que le prophète salam, il écoutait, il mémorisait, et d'ailleurs lors du début de la révélation, on connaît le début, comment ça s'est passé, le prophète était un peu angoissé. Au-delà de la phase où l'ange ben saint est venu voir pour la première fois, quand le prophète recevait les versets, il les répétait sans cesse, de crainte d'oublier les versets. Et là, Allah Azza wa Jalla a révélé, le verset c'est quoi, Fizam ? Le verset ne me revient pas. Subhanallah, un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla, qui n'a pas nécessité de répéter, car Allah, dans le sens du verset, fixe. Allah Azza wa Jalla permet au Prophète, au moment où il écoute, il mémorise, il l'intègre, et c'est une protection, une mémorisation, une protection qui vient d'Allah Azza wa Jalla, parce qu'elle est destinée à l'ensemble de la Ummah. Même si normalement un être humain, en écoutant, on va dire, une dizaine de pages, lu une seule fois, d'accord ? Si je vous lis 10 pages, d'accord ? Est-ce que, humainement, on peut mémoriser et répéter mot pour mot ? C'est difficile. Ça va au-delà de ce que l'être humain peut faire, peut accomplir. Mais lorsqu'il s'agissait du wahi, même si c'était des chapitres qui étaient longs, qui étaient révélés en une seule fois, le prophète avait eu la capacité de la part d'Allah de tout mémoriser et de le transmettre aux sahaba qui allaient l'écrire. Donc il y a le wahi, ça sert à pas. Ensuite, il y a les hadiths, inspiration de la part d'Allah, dans lequel Allah s'adresse directement aux êtres humains, ce qu'on appelle les hadiths Qudsi. Et puis il y a les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est les hadiths, j'allais dire normaux, enfin classiques, c'est les hadiths que nous avons l'habitude d'écouter, et cela dans différentes circonstances. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient, on va dire, les actions ou les spécificités, le contexte ou la personnalité du sahaba qui se présentait à lui, qui posait une question, la réponse que le prophète donnait, ça venait d'abord. Un exemple, avant de commencer le sujet vraiment, il y a des sahaba qui parfois demandaient au prophète alayhi salatu wassalam des questions, ils posaient des questions concernant le qiyam. Et les réponses du prophète alayhi salatu wassalam étaient souvent différentes, d'un sahaba à l'autre. Un sahaba, il pose question au prophète, le prophète lui donne une réponse, un élément de réponse. Un autre demande qu'est-ce qu'on doit faire, il lui donne un autre élément de réponse. C'est pas que le prophète, il dit ce qu'il a envie de dire, c'est qu'Allah azza wa jalla met dans son cœur ce qu'il faut dire concernant telle personne et telle personne, connaissant la personnalité et le potentiel de chacun et les manquements. Bien sûr, le prophète ne lisait pas dans les cœurs, mais c'est qu'à cet instant, Allah mettait dans son cœur ce qu'il fallait répondre à tel sahaba, ce qu'il fallait répondre à telle autre personne et à telle autre personne. Et si on assemble toutes ces réponses, ça nous donne, mashallah, un éventail d'actions ou de mises en garde concernant, par exemple, la fin des temps, une multitude de réponses. Et ce n'est pas que le prophète disait, encore une fois, ce qu'il avait envie de dire, c'est qu'en fonction des circonstances, des époques, des personnalités, Allah Azza wa Jalla lui a inspiré la réponse qui était adéquate, qui était adaptée à la personne. Et nous avons hérité de ces transmissions, et le modèle, et ces transmissions, ces hadiths, c'est notre mode de vie, notre mode de fonctionnement du mu'min. Et au-delà des hadiths, lorsqu'on a vu les exemples des sahaba à Khandaq et à Uhud, comme on a dit, le prophète, lui, il était parfait. Il était protégé de tout péché, de tout manquement et de tout erreur de jugement. Mais les sahaba, eux, restaient des êtres humains. Ils restaient des hommes, et à des fois, les sahaba avaient peur. Et lorsqu'on voit que dans une situation critique comme Khandaq wa balaghat al-qulub al-hanajira, comme on l'expliquait la dernière fois, on voit l'angoisse qui montait, on se reconnaît. On se reconnaît dans une situation où ta femme est tuée en danger, ta femme et tes enfants peuvent être tués par les ennemis à n'importe quel moment, soit les ennemis qui sont à l'extérieur, soit la mutinerie, on pourrait dire, qui était en train de se préparer à l'intérieur de Al-Madina Al-Munawara. Également, lorsqu'on voit à Uhud, après les situations difficiles et que le prophète les mobilise de nouveau parce qu'il y a une nouvelle attaque des ennemis, on se reconnaît un petit peu dans la fatigue. Dans la fatigue, après ces moments difficiles, il faut se ressaisir, répondre encore présent. Et on voit, et là on voit l'exemple, un homme qui est épuisé, un homme qui est fatigué. Et à Khandaq, un homme qui a peur, un homme qui craint une crainte qui est tabi'i, une crainte qui est naturelle concernant sa femme et ses enfants, comment est-ce que dans des situations entre guillemets de faiblesse, des situations négatives on va dire, où on perd un petit peu de courage, ben on arrive à remonter la pente en se raccrochant, en ayant confiance en Allah Azza wa Jal. Chaque mu'min, à toutes les époques, quel que soit le lieu, quelle que soit l'époque, peut se reconstruire spirituellement à travers l'exemple des sahaba, parce que c'était des êtres humains comme vous et moi, avec parfois des faiblesses, mais lorsqu'ils revenaient vers Allah Azza wa Jal, c'était les meilleurs des hommes. Et parfois, une fois, il y avait l'exemple d'Abu Bakr al-Siddiq, par exemple, qui était pourtant celui qui avait le plus haut niveau de iman lors de l'émigration. Il est avec le prophète alayhi salatu wassalam, l'histoire est très connue. Il marche aux côtés du prophète salam, parfois devant, parfois derrière, parfois à droite, parfois à gauche. Le prophète salam lui avait demandé pourquoi est-ce qu'il change de position quand il marche. Il a dit, ya Rasulallah, je crains que l'ennemi arrive de derrière, qu'il te vise d'une flèche. Là, je me mets derrière ton dos en espérant que s'il y a une attaque, c'est moi qui sera victime, je serai ton bouclier humain. Et des fois, je crains que l'ennemi nous surprend devant et je me mets devant. Quand je pense à ça, je me mets devant. Au moins, s'il y a une attaque, c'est moi qui suis victime et toi, tu es protégé. Est-ce qu'Abu Bakr al-Siddiq n'avait pas confiance en Allah? Bien sûr que si. Mais là, nous voyons l'angoisse, les situations de crainte et on se reconnaît. Et là, le Prophète sallam va rassurer Abu Bakr al-Siddiq et nous aussi, on trouve ce réconfort spirituel à travers les paroles du Prophète qu'il a dit à Abu Bakr, qu'il a dit aux Sahaba, et cela nous est adressé d'une façon générale. Et toute la beauté du Wahi, toute la beauté, on expliquait dans Tafsir ibn Kathir, même les versets qu'Allah a révélés concernant les hypocrites, qu'Allah nous protège du nifaq, que les versets qu'Allah a révélés, qui décrit par exemple les mushrikines, les ennemis du Prophète alayhi salatu wassalam, dans la sourate Al-Qalam, où Allah révèle les défauts des personnes qui osaient traiter le prophète de menteur, Allah révèle au grand jour tout ce qui était mauvais dans leur cœur. Et toutes les personnes qui écoutent le wahi, ils réalisent, ils voient, ils décryptent le mal qu'il y avait dans le cœur des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam. Mais lorsque nous lisons ce genre de verset, d'une certaine façon, on peut tirer des leçons profitables. Parce que nous voyons comment est-ce qu'Allah décrit ces personnes et nous réalisons que ce sont des défauts qu'Allah déteste, comme celui qui colporte les nouvelles pour semer la zizanie, celui qui fait donc hammaz, celui qui se moque des gens, ainsi de suite, ou qui jure par Allah pour des choses qui ne sont pas vraies ou qui ne tient pas ses engagements, ainsi de suite. Ben on se rend compte que ce soit à travers les versets ou les hadiths, que ce sont là des défauts qu'Allah déteste, des traits de caractère donc qu'on ne doit jamais retrouver en nous-mêmes. Et que si, par inadvertance, on sent qu'on est en train de développer ce genre de comportement, si je sens que, dans une certaine situation, je commence à écouter des nouvelles d'un côté, et de le but de rapporter à d'autres personnes, on essaie de créer des fitnas, on se rend compte que ça, c'est pas du tout les qualités du croyant. Ça, c'est au contraire les traits de caractère de l'hypocrite ou de celui qui est l'allié du diable, l'allié de Shaytan, et donc on demande istighfar, et immédiatement on réalise que c'est une faute grave, et on essaie de s'en défaire totalement. Donc, à travers chaque verset, il y a un enseignement. Que ce soit le verset qui décrit la situation des pieux, que ce soit les versets qui décrit les hypocrites ou les kuffars, on a toujours quelque chose à profiter. Et donc, ces sahabas, à travers leur crainte, leur angoisse, mais jamais hésitation. Jamais hésiter à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se reconnaît, on arrive à se reconstruire spirituellement. Ensuite, pour conclure ces récits, le mu'allif, l'auteur de Riyad al-Salihin, en introduction du chapitre, il va citer les trois versets donc qu'on a lus. Le verset de la surat al-Furqan, de la surat al-Talaq et de la surat al-Anfal, qu'on va expliquer rapidement, pas en mode tafsir, mais vraiment pour voir uniquement le passage qui nous intéresse. On parle de la confiance en Allah. Le premier verset de Al-Furqan, wa tawakkal 'ala al-hayy alladhi la yamut. De ce verset, Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants de développer la confiance en lui, parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est le vivant. Et quand on dit Allah, c'est le vivant, il est éternel. Alladhi la yamut, celui qui ne meurt pas. Et pourquoi est-ce que cette description de notre Seigneur comme étant éternel, la yamut, contrairement aux êtres humains, contrairement aux makhlouqat, contrairement aux créatures qui, eux, meurent. C'est pour qu'on arrive à réaliser ce qui est propre aux créatures et ce qui est unique pour le Créateur. Quelle que soit la personne en qui tu as confiance, quel que soit son potentiel, quel que soit le poids qu'il a dans la société, quelle que soit la lourdeur de son compte en banque. C'est-à-dire, en général, on se lie aux gens. On fait confiance à des personnes, soit parce qu'il est riche, soit parce qu'il est connu, soit parce qu'il a le bras long, et ainsi de suite. Qu'Allah nous pardonne, ce sont les faiblesses des êtres humains. Ce sont les faiblesses. Dans la difficulté, on cherche soit quelqu'un d'aisé, soit quelqu'un de bien placé qui peut faire une intervention pour nous. À la préfecture, à la CAF, au conseil général, au conseil régional, et ainsi de suite. Bref. Malheureusement, ce sont des défauts qui sont propres à la nature humaine. Mais à travers ce verset, il y a une réflexion qu'on doit faire. On a au-dessus de nous, j'allais dire d'un côté, on ne peut pas comparer, on a au-dessus de nous Al-Hayy, le vivant. Comprenons l'éternel, celui qui a toujours existé, qui existera toujours. Et toutes les qualités d'Allah Azza wa Jal se distinguent par Al-Kamal, par la perfection. Le fait qu'Allah soit entre guillemets vivant, c'est la perfection dans l'éternité, toujours existé, et Allah existera toujours. Et donc son pouvoir est illimité et sans fin. Et de l'autre côté, Alladhi la yamut, pour qu'on réalise que qui c'est qui meurt du coup ? Ce sont les makhlouqa. Donc autant on a confiance en monsieur A, monsieur X, Y ou Z, n'oubliez jamais que ce sont des makhlouqa, que ce sont des créature d'Allah. Et qu'il est inconcevable d'avoir une confiance totale sur une créature d'Allah qui lui-même dépend des décisions d'Allah. Et tributaire du taqdir, du destin qu'Allah a prédestiné. Et bien inconscient, celui qui va voir le produit fini manufacturé, alors qu'il peut aller à la source pour demander comment façonner mon destin. Comment façonner, comment donner une direction à cette situation de la vie ? Qu'est-ce que je souhaite concernant ma vie de couple, ma vie familiale, concernant l'avenir de mes enfants, concernant ma santé, et ainsi de suite ? Demande à ton Seigneur, Al-Hayy, alors que les autres, ils meurent, que ce soit ins ou djinn, quels que soient les makhloukat, ils ont une espérance de vie qui est limitée. Et leur rizq, leur subsistance, et dans les mains d'Allah Azza wa Jal. Donc, ne t'adresse pas, si tu es intelligent, si tu es doué de conscience et d'un certain iman suffisant, réalise que c'est auprès de ton Seigneur que tu dois demander, faire confiance, et non pas auprès des makhlouqat, des créatures. Donc, ça c'est, en résumé, l'enseignement, on va dire, principal qui nous intéresse concernant la confiance en Allah à travers ce verset. Autrement, si on allait vers les tafsir des Mufassirin, c'est tout simplement magique et magnifique. Deuxième verset, on essaie d'avancer pour commencer réellement le premier hadith. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Et ça, c'est magique aussi. Ça, c'est magnifique, ce verset. Si on arrive à le réaliser, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, celui qui fait confiance en Allah, فَهُوَ حَسْبُ. La réponse, le jawab, c'est d'une simplicité. C'est même pas une phrase verbale. C'est une simplicité. فَهُوَ حَسْبُ. Ça veut dire qu'Allah lui suffit. Tu fais confiance en Allah, يَكْفِيكَ. Si réellement un mu'min arrive à faire confiance en Allah, à s'en remettre à lui, Allah lui donne la garantie que cette confiance-là débouchera sur un résultat. Et Allah suffira à cette personne qui a confiance en lui correctement. Commentaire dit, فَإِذَا تَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ كَفَاكَ كُلَّ شَيْءٍ. Si tu places ta confiance en Allah, Allah te suffira dans toutes les situations de la vie, quelles que soient tes attentes et tes demandes. Mais attention, il y a toujours un mafhoum khalafa. Mafhoum khalafa, c'est la compréhension inversée. Là aussi, c'est les versets, ça nous interpelle. Il faut méditer sur les versets. Allah te dit, si tu fais confiance en lui, il te suffit. Mais réalise dans l'autre sens que وَإِذَا تَوَكَّلْتَ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ. Vous avez dit ça. Si tu places ta confiance sur d'autres qu'Allah, c'est-à-dire sur les créatures. وَكَّلَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Allah Azza wa Jal te laisse à la merci de ces gens. نَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ. D'où le doigt du Prophète, فَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ. Même pas une fraction de seconde, un battement de paupière, même pas un instant, ne nous falatakina ila nafusina, ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Traduction un peu plus correcte. Ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Que jamais que ce soit moi qui dois décider. Imaginez que la santé de notre main, que notre santé était dans notre main. Imaginez que notre subsistance, notre rizq, était dans nos mains. Imaginez que la subsistance de vos enfants était dans vos mains. Celui qui a 5, 6, 9, 12 enfants, mashallah, autant on aura, autant ces barakas, autant le prophète sera fier de nous. Celui qui a 8, 9 enfants, si le matin il se réveille, il dit, chaque enfant, le matin, chez nous les enfants, madrasa, quand ils mangent, ils rigolent pas, hein, ils mangent une demi-baguette, il dit, comment je vais acheter tout ça, comment est-ce que je vais avoir assez d'argent. Et si tu calcules combien un enfant mange, le petit déjeuner, le dîner, que tu commences à tirer ta calculatrice, tu comptes un mois égale 30 jours, j'ai 8 enfants, 3 repas, Allah, Allah, Allah. Il dit, il faut un salaire de PDG pour, juste pour les nourrir. Sans compter EDF, sans compter V, enfin pas de pub, hein, j'ai pas d'action dans aucun endroit, uniquement des bonnes actions, Inch'Allah. J'ai pas de. Comment ça? L'électricité, l'eau, le gaz, il arrête les dalik. Si tu commences à tirer ta calculatrice uniquement concernant le nombre de grains de riz que tu dois mettre dans la bouche de tes enfants, yakfik, c'est ma'ihtaj. Tu pètes un câble, comme il dit. Tu t'enfuis. Heureusement, le rizq est dans la main d'Allah. Heureusement, la santé est dans les mains d'Allah. Quand vous respirez, il y a combien de... Quelle est la probabilité... On a les professeurs de maths qui sont là. Quelle est la probabilité pour que vous inspirez un virus ou une bactérie ou quelque chose qui sera mauvais ou vraiment grave pour votre santé? Il y a une probabilité. Il y a des personnes qui, tout d'un coup, ils marchent à un endroit, il y a un verre, on ne sait même pas, qui rentre de les talons sous les, qu'on appelle ça, sous les pores du pied, et ça donne, Allah Musta'an, genre de maladie où les pieds gonflent, ainsi de suite. Il n'a pas cherché ce qu'il marchait, tout d'un coup, il y a eu que, mais c'est des choses qu'on ne voit presque pas. C'est des micros, c'est des micromètres, millimètres, bref. C'est-à-dire que si la santé de nos mains était dans nos mains, et si, c'était nous, à nous-mêmes de garantir, de nous protéger contre les maladies. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Vivre dans une chambre stérilisée. Il aurait fallu prendre les trucs qu'on met pour nettoyer les mains, il fallait prendre des roussales, il fallait faire des... Voilà. Parce qu'il y a des microbes, il y a des bactéries partout. Tu bois une gorgée d'eau, tu ne sais pas s'il y a les salmonelles, enfin les trucs, le nombre de virus qui existent, on ne peut même pas les nommer. C'est-à-dire que ce n'est pas à toi de te protéger contre les maladies. Ce n'est pas à toi de chercher combien de graines de riz tu vas manger et combien tu vas en donner à tes enfants. C'est pour ça que le Coran, il est interdit. Enfin, le thème est un peu fort. Voilà, taqtulu awladakum khashyata imlaq. Il ne faut pas penser que, enfin, ça c'est peut-être, ça concernait les mouchriquines à l'époque, qu'une personne se débarrasse de ses enfants de crainte de ne pas avoir suffisamment mangé. Où est-ce que je vais trouver la nourriture pour eux? T'inquiète pas. Voilà, taqtulu awladakum khashyata imlaq. Après, c'est quoi la suite? Nahnu, barakallahu fik. Ramadan approche, faut réviser. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est nous qui leur donnons le rizq et qui te donne, qui vous donne également la subsistance. Tu es en train de te faire du souci pour tes enfants, mais toi qui te nourris? C'est-à-dire que si tu donnes pas à manger à tes trois, tu auras plus à manger. C'est pas comme ça que ça marche. Bref, il y a une leçon de. Et subhanallah, en conclusion, parce que des fois on aimerait aller directement à la conclusion. Ça va expliquer que celui qui vraiment il vit avec la confiance en Allah, c'est quelqu'un qui a le cœur léger et apaisé. Et celui qui a confiance en Allah, c'est synonyme également de iman bil qadha et wal qadr, confiance sur le destin. Ça, c'est avec ça. À partir du moment où tu es persuadé, tu as la conviction que c'est Allah qui prédestine toute chose, ben, c'est là que tu auras confiance en lui. Et à partir du moment où tu connais les qualités d'Allah Azza wa Jal, c'est là que tu auras confiance en lui. Là, on a iman billah, on a iman bil qadha et wal qadr. À partir du moment où tu sais qu'il y a des anges qui amènent la subsistance, qu'il y a d'autres anges qui sont responsables des mers et ainsi de suite, d'autres anges qui protègent les gens, lahum mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi, ils protègent contre toute chose de mal qui n'est pas prédestinée. Ben, si tu sais qu'il y a des anges qui font ce travail, tu places ta confiance en Allah. Là, on développe iman bil malaika. Il a réalisé dhalik. C'est-à-dire que tout ça, ça constitue. C'est pas juste je fais confiance et je fonce. Ça s'apprend la confiance en Allah à travers l'étude des branches de la foi, à travers les noms, les attributs d'Allah, à travers le ilm, à travers les versets du Coran, à travers les promesses du Coran. Ce petit mot, enfin, astaghfirullah, cette fin de verset, fa huwa hasbu, Ça, c'est de l'or. Et c'est encore plus remarquable parce que la formulation, elle est extrêmement concise. C'est comme si que fahuwa hasbu, ça te percute. Et sache que c'est bon, c'est terminé. Allah te suffit. Allah te garde sous ta protection. Tu fais confiance en lui, Allah te suffit amplement contre toute chose, tout ce que tu peux imaginer, tout ce qui peut arriver à une créature. Donc, attention, si tu places ta confiance en d'autres qu'Allah, Allah te laisse avec ces personnes. Et c'est à eux d'assumer ta protection, ainsi de suite, et c'est impossible. Tout comme, on passe à un autre exemple complet pour qu'on réalise que Allah Azza wa Jal, pas si on peut dire ça, c'est pas irrespectueux. Allah veut, oui, l'exclusivité du culte, l'exclusivité du ibada, tant la prosternation c'est ibada, la confiance c'est une ibada, l'intention c'est une ibada. Quand dans le hadith Qudsi, cette fois-ci, Allah Azza wa Jal inspire par exemple pour nous dire que celui qui accomplit une action dans laquelle il recherche Allah et autre qu'Allah, taraktuhu wa shirka. Je l'abandonne ainsi que son associé. Parce que ana aghna shuraka ani shirk. Allah n'a besoin d'aucun, il ne veut, il ne tolère, il est vraiment celui qui n'accepte aucun associé. Depuis ton intention, je ne dis pas les actions, depuis dans ta tête, ton intention, n'associe personne à Allah. Et dans l'accomplissement des actions, fait en sorte que c'est l'Illahi Azza wa Jal faqat. Je vous assure, c'est très facile de le dire, mais c'est très, très compliqué de le mettre en application, surtout dans les relations avec les gens. Et surtout, et là on met le doigt sur des points très sensibles, dans les relations familiales, très souvent, ou même amicales. Tu donnes, quand tu donnes, tu aimes recevoir. Quand on donne, on attend toujours un retour. Et il y a des fois où il y a des gens qui prennent des distances, disent « Ah, de toute façon, tout le temps, m'y aide à lui, m'y invite à aller mon casse ou manger, je fais tout ça. » Mais lui, jamais il n'appelle pas. Que rien vient déjà faire la case de monde et il ne donne pas rien. Ça, c'est une réaction humaine, you know. On l'a tous pensé une fois. On connaît tous un caleur dans notre quartier. On connaît tous quelqu'un qui aime bien venir manger chez vous, mais qui ne vous invitera jamais chez lui. Alors, ça veut dire quoi? Tu arrêtes, tu n'invites plus. Ne l'invite plus si tu le fais pour lui. Mais si tu le fais pour Allah, sache qu'à chaque fois que cette personne vient et qu'il mange un peu de ton rizq, le nombre de barakas, le nombre de ni'ma qui va, mashallah, entourer ton toit, ta famille et la bénédiction qu'il y aura dedans, ben, tu dois le remercier lui. Parce que lui, c'est un intermédiaire pour obtenir la grâce d'Allah. Une autre vision de la vie. Quand tu fais ihsan, quand tu agis bien avec une personne, n'attends jamais de retour. Parce que ça, c'est ikhlas lillah. Ce n'est pas uniquement je fais la salat pour Allah. Ça, on a intégré ça. Personne ne dit je prie pour Allah. Mais le ikhlas, c'est même dans les relations humaines, dans les échanges, dans ce que tu donnes, fais-le pour Allah sans attendre aucun retour. Bon, là, on va complètement sortir du sujet, mais il y a une anecdote de Aisha radiallahu anha qui est, je sais pas, il est un peu trop tôt de vous en parler parce que il y a un cheminement qui, c'était dans un grand programme, avec un cheminement, on arrive à ce genre de conclusion et là on comprend, mais direct comme ça, ça paraît bizarre, je vous le dis quand même, si c'est pas compris, khair, inshallah, on expliquera une autre fois. Quand Aisha radiallahu anha mandater des gens pour aller donner l'aumône aux pauvres. Elle disait à ces personnes, écoutez tout ce que ces personnes vont vous dire comme parole de remerciement. S'il te dit Jazakallahu khair, réponds-lui immédiatement wa iyak, Jazakallahu khair wa iyak. S'il te donne n'importe quel doua, réponds-lui par le même doua. Parce que je crains que cette doua, que cette invocation, ces paroles bénéfiques, soit déjà une part de notre récompense dans ce monde. Et donc, quand il te donne un petit poisson, redonne-lui un poisson. Au moins, tu es sûr que quand tu reviens, tu n'as rien obtenu de cette personne, même pas un doua, pour tout avoir auprès d'Allah. C'est puissant. C'est pas facile à comprendre, parce que ça, c'est un autre niveau de pratique, un other level, comme on dit. Ça, c'est un autre degré. Ça dépasse tout ce qu'on peut concevoir. C'est relaté de Aïcha. C'est relaté de, je ne sais pas, Umar ibn al-Khattab ou Ibn Umar. Même chose. Quand il donnait quelque chose à quelqu'un, il faisait en sorte, certains, ils faisaient même en sorte de déposer, quand la personne faisait la salat, de la prosternation, il déposait à ses pieds, il partait. afin que la personne ne voit même pas c'est qui, même s'il comprend c'est qui, pour ne pas avoir un jazakallah khair. Vous allez dire que ben, c'est non, jazakallah khair, c'est bien de dire, c'est un doua, oui, mais le niveau c'était autre chose. Pour eux, le fait qu'ils te donnent un doua, c'est déjà une part de récompense. Ils ne voulaient rien de ce monde. Même pas le doua de la personne que tu as aidé pour tout obtenir auprès d'Allah. Ça, c'est relou. Ça, c'est le plus haut degré de ikhlas. C'est difficile de comprendre. Mais c'était le niveau des sahaba. Donc, les potes, un petit peu loin, même très loin. Donc, attention, si tu places ta confiance sur des personnes, Allah te laisse. Tout comme si tu associes quelqu'un à Allah dans ton intention ou dans n'importe quelle action que tu accomplis. Par exemple, il y a appel de générosité pour aller à la masjid, d'accord? Une personne veut montrer à son cercle d'amis qu'il est généreux. Il prend un billet de 20 euros, 30 euros, il met dans la, je sais pas, la caisse, la boîte aux lettres. Finalement, il dit, eh, voilà, il faut faire comme ça et tout. Bref, vous croyez qu'Allah a besoin de ça? Le 20, le 50, le 1000, le 100 000 qu'il donne, Allah n'a besoin de rien du tout de ça. Parce que dans son niya, dans son intention, il n'y a pas Allah. Il y a Allah et les gens. Et Allah n'accepte pas « et ». C'est Allah. « Faqat. Allah wahda la ilaha illa. Illa Allah. Wa la na'budu illa iya. Mukhlisin. Ikhlas. Mukhlisin lahuddin. » C'est-à-dire, toute notre pratique, c'est l'illah. « Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati » C'est pour qui ?« Lillahi rabbil alamin. » Al-ikhlas, faire tout pour Allah, avoir confiance en Allah uniquement. Si tu places ta confiance en Allah, mais confiance sur les gens aussi, Allah laisse les gens gérer ton problème parce que tu lui as associé quelqu'un dans une action qui fait partie des a'mal al-qulub, des actions du cœur, qui est la confiance en Allah. Hada, nasallallahu alayhi wa sallam. Je pense qu'on peut terminer le dernier verset. On peut, encore 5 minutes, inshallah. On n'a plus de chronomètre, donc on ne peut pas dire depuis quand on a commencé. Khairan. Le dernier verset, on va être un peu plus concentré dans l'anfal. Innamal mu'minun, les vrais croyants sont ceux. Ça, c'est un verset qui est intéressant. En fait, tous les versets sont intéressants. Mais qu'un verset commence par Innamal mu'minun alladhina. Les vrais croyants sont ceux dont ou sont ceux qui. Ça veut dire que ceux qui vont être cités comme qualités après, ce sont les qualités qui décrivent les vrais croyants. Innamal mu'minun, c'est-à-dire les vrais, ceux qui sont acceptés par Allah, ceux qui sont agréés par Allah, ceux dont l'intérieur et l'extérieur ne font qu'un, ceux dont les actions reflètent ce qu'il y a dedans, et que les actions extérieures émanent réellement d'un fond qui est pur, propre, solide et réellement existant. Non pas comme nous, on a beaucoup d'extérieur et une coquille vide dedans qu'Allah nous protège. Innamal mu'minun, les vrais, tout comme dans Al-Baqarah. Hudallil muttaqin, une guidée pour les pieux. Alladhina, et quand on a alladhina pour nos relatifs, ceux qui, c'est-à-dire ceux qui vont être cités après alladhina, ça ce sont les qualités des muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaib, jusqu'à la fin des descriptions. Et pareil, dans, il faut essayer de créer une relation avec les versets. Ça, c'est vraiment important. Et on va voir que c'est une mine d'or, plus que de l'or même. Et c'est inépuisable. C'est quand quelqu'un, quand le professeur me dit que parmi les deux estomacs qui ne sont jamais, 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 jamais remplis, il y a le mauvais, celui qui aime le dunya. Celui qui aime les biens de ce monde, il voudra encore et encore jusqu'à la mort. C'est la cupidité. La seule chose qui remplit le ventre, c'est At-Turab. Qu'est-ce qui fait qu'un multimillionnaire continue à investir? Combien il va manger? Combien il va jouir? Il a plus d'argent, il a suffisamment d'argent pour vivre 10 fois. 10 fois 70 ans. Il peut vivre 700 années avec ce qu'il a déjà dans son compte en banque. Il veut encore. Maladie spirituelle. Maintenant, ce qui est positif dans un ventre, un estomac qui n'est jamais plein, c'est le ilm. Quand quelqu'un a trouvé le goût du ilm, de la connaissance religieuse, jusqu'à sa mort, cette personne voudra encore et encore le ilm. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Si on arrive un jour à se connecter à la réalité des versets, on aura trouvé notre kiff spirituel. Jusqu'à la mort. Et c'est inépuisable. Souvent, on pense que la religion, c'est une routine. Ramadan, Qurbani, Hajj, on reprend et ainsi de suite. Ça se répète. Ça se répète. Mais ces événements qui se répètent, tu peux leur donner une ampleur exceptionnelle si à la base, tu as la parole d'Allah, si tu as médité sur le sens. Quelqu'un qui a lu, qui a appris ben, son somme, son Ramadan, c'est quelque chose de magnifique, exceptionnel, alors que pour d'autres, c'est que la faim, la soif et le manque de sommeil qu'Allah nous protège. Donc, innamal mu'minuna, qui sont les vrais croyants. Et c'est l'attestation d'Allah. C'est Allah qui atteste que ce sont eux les vrais croyants. Alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum, sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Comment est-ce qu'un cœur peut frémir quand on mentionne Allah? C'est quand ce cœur connaît Allah. C'est quand la grandeur d'Allah a pénétré ce cœur, a trouvé sa place de ce cœur. Et là, quand on parle d'Allah, là, la personne frémit. Dans certains récits, il est cité, donc on t'a fait d'accord. Tout d'abord, « Iza dhukira ba'avamatuhu wa jalalu » Lorsqu'on parle de la grandeur d'Allah, Khafat al-qulub, les cœurs ont peur de la grandeur de la puissance d'Allah, wa ta'athara al-insan, et cela affecte le croyant. Et donc là on vient au récit de certains pieux prédécesseurs, idha tuliyat alayhi ayatul khawfi yamrudu ayyam, certains parmi les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils écoutaient les versets qui parlent des châtiments et des punitions, ils pouvaient tomber malades et rester malades pendant plusieurs jours, comme une personne qui est en état de choc. Il y avait ce, je ne sais pas si c'était un sahaba qui disait que le soir il n'arrive pas à dormir parce qu'il a lu des versets du Coran qui décrivent les punitions, les châtiments du Jahannam, et il n'arrive pas à dormir, il a peur qu'un jour il doit vivre ces situations. Et dans d'autres récits, il dit également que pour certains pieux prédécesseurs, إِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ يَرْتَعَدَ حَتَّى يَسْقُطَ مَا فِي يَدِهِ. Certaines personnes, lorsqu'on leur rappelait, crains Allah, n'oublie pas le regard d'Allah sur toi, la personne se mettait à trembler que ce qu'il avait dans les mains tombait, tellement la personne était saisie en réalisant qu'Allah me voit, qu'Allah est au-dessus de moi. Ça, c'est vraiment, ça aussi, ça nous paraît un petit peu difficile à comprendre, mais ça c'était le niveau de iman des sahaba et des tabi'in. Idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. On va pas aller plus loin dans les explications pour pouvoir compléter le verset. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Hey, lorsqu'ils entendent kalam Allah, izdadu imanan min wajhain. Leur iman augmente de deux façons. Premièrement, التصديق بما أخبر الله به من أمور الغيب الماضية والمستقبلة. Pourquoi est-ce que leur iman augmente? Premièrement, parce qu'ils vont apporter une croyance sans faille sur tout ce qui est cité dans le verset, même les choses concernant l'invisible, le passé ou le futur. De cette façon, leur iman augmente, parce que quand on croit, qu'on est véridique et qu'on croit au verset et qu'on porte conviction sur tout ce qui est cité dans le verset, la foi augmente. Et deuxièmement, al-qaboul li-ahkamillah. C'est-à-dire que la personne, sa foi augmente parce que lorsqu'il entend les versets, il va mettre en application ces versets. C'est-à-dire que la qualité, idha tuliyat alayhim, lorsqu'on leur lit, on leur récite les versets, et là on voit c'est quoi la vraie qualité d'écoute. C'est pas juste que tu écoutes pour admirer, pour contempler la beauté du qira'a, de la lecture, c'est pas ça. Si tu écoutes pour capter l'information, pour avoir iman sur l'information et pour le mettre en application. Ça, c'est une véritable écoute du Coran qui est bien sûr accompagnée de la méditation sur la beauté des versets. فَيَمْتَثِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. Et ils se mettent à appliquer à la lettre ce qui est révélé. فَيَزْدَادُ بِذَلِكَ إِمَانُهُمْ. Et donc, leur foi augmente parce qu'ils vont obéir, ils vont mettre en application. Et en commentaire, les savants disent, on retient à travers cette première partie de verset que le fait de mettre les versets du Coran en pratique, ça, c'est une qualité de innamal mu'minun, des vrais croyants, des pieux. Après, il y a une conclusion pour cette première partie, et ça, c'est un petit peu fort aussi, parce que là on avance un peu dans les commentaires, ce sont des grands savants qui font ces commentaires, donc il y a parfois des énoncés qui nous paraissent un petit peu difficiles à intégrer. Là, c'est une phrase, on va dire, qui est un peu choquante. « Wa hakadha, idha ra'ayka min nafsik » Si tu te rends compte que « annaka kullama talawta al-Qur'an » qu'à chaque fois que tu lis le Qur'an, tu sens ta foi augmenter et tu sens cette lumière, هذا من علامات التوفيق. C'est une preuve qu'Allah t'a choisi. C'est une preuve que tu es arrivé à un degré qu'Allah t'a accepté. Amma, Allah nous accorde cette qualité. Mais par opposition, qu'Allah nous protège. Amma ida kunta taqra al-Qur'an ولا تتأثر به. Que si tu lis le Coran et tu ne sens strictement rien qui se passe dans ton cœur ou dans ta pratique ou dans tes résolutions, alors analyse ta vie, fais une analyse de ton vécu, de tes jours, du temps que tu passes, de tes décisions, de tes actions, sache que c'est un cœur qui n'est pas en bonne santé. فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْقُرْآنِ. Si le cœur ne profite pas du Coran, فَإِنَّهُ قَلْبٌ قَاسٍ مَرِيضٌ نَسَلُ اللَّهِ الْعَافِيَةِ. Si le cœur ne profite pas, il ne voit même pas un signe de lumière ou d'augmentation de la foi ou de la pratique ou de la crainte d'Allah à l'écoute des versets, c'est que le cœur est devenu sec, il est devenu dur, on pourrait dire, et c'est un cœur qui est marid, un cœur qui est malade, qu'Allah nous protège. On va s'arrêter à là, le reste est un peu long, il faut qu'on explique, parce que là, après, wa'ala rabbi matawakkalun, c'est le shahid, c'est ce qui nous intéresse, et après, il y a les actions qui viennent avec. Donc, on va s'arrêter à là. Maintenant, imaginez qu'on a un cœur dur, parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas conclure sur quelque chose de si choquant, parce qu'on se rend peut-être compte que la lecture du Coran parfois ne nous fait pas grand-chose. On écoute, mais je ne sais pas, est-ce que ça provoque quelque chose en nous, ça nous ramène vers plus d'obéissance. Les savants disent que si on se rend compte qu'on a un cœur malade, je pense qu'on a tous le cœur malade. On vit dans une époque où il y a tellement de fitna, il y a tellement de péchés, où notre foi elle est tellement dépassée parfois par nos pulsions, par nos erreurs, par nos manquements, qu'on a tous le cœur malade. Est-ce que ça veut dire, pour autant, que si notre cœur est malade, c'est terminé, on va mourir comme ça? Jamais de la vie. Dans sa clémence, Allah Azza wa Jal nous donne toujours la possibilité de nous rapprocher de lui, quel que soit le degré d'éloignement de la personne. Et en fait, plus tu es éloigné, et quand tu reviens vers Allah, Allah est satisfait de toi, d'où le hadith de l'homme qui a égaré sa montée dans le désert et qui le retrouve. Comment il est heureux? C'est métaphore, on comprend, quelqu'un qui est parti très loin, mais très loin de les péchés. Très loin. À un moment donné, on s'est dit que cette personne est perdue. Comme ce chameau qui s'est éloigné de son propriétaire, à un tel point que le propriétaire a pensé qu'il est perdu, qu'il n'y a plus d'espoir. Tu vois, quelqu'un qui est parti très loin de les péchés dit que lui, c'est terminé. Il a quitté, lui, il est parti ailleurs et tout. Et qu'à un moment donné, il revient vers le dîn. Allah Azza wa Jal est content et satisfait de voir le retour du ciel. C'est-à-dire qu'Allah nous laisse toujours la porte ouverte jusqu'à la dernière seconde de notre vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner un cœur malade? Les savants donnent quelques pistes et on continuera à développer la prochaine fois, mais juste quelques pistes pour qu'on puisse travailler ça. Il y a des efforts à faire sur soi-même. Il faut se faire violence. Il faut se faire violence, bien sûr, sur le plan spirituel. Il faut s'efforcer de faire des actions que notre cœur ne veut pas accomplir. Parce que si le cœur est malade, le cœur ne veut pas les bonnes choses. Le cœur veut que les pulsions, les passions et tout ce qui lui apporte un plaisir, même si c'est éphémère. Dans ce cas, il faudra lutter contre le cœur. Il faut que tu soignes ce cœur à coup de amal, à coup de bonnes actions. De quelle façon? Les savants donnent comme premier palier le istighfar. Il y a beaucoup à astaghfirullah wa atubu ilayhi, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah alladhi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum wa atubu ilayhi. La formule qu'on connaît et qu'on pourra lier avec le plus de sincérité. Deuxièmement, privilégier le istighfar pendant le dernier tiers de la nuit. Tu as envie de t'en sortir? Tu te rends compte que spirituellement tu es dans le néant et tu as envie de devenir quelqu'un de bien, mais ce n'est pas sur un claquement de doigts, ce n'est pas un document que tu vas signer. Ce n'est pas un virement qu'on fait. C'est pas comme si tu es endetté et tu vas avoir quelqu'un qui te prête de l'argent et que en 15 minutes ton compte est crédité et que là c'est bon. Ça se passe pas comme ça. Il y a un effort à faire et il y a un effort à faire avec sincérité mais également avec constance. Barakallahu fik. Avec constance, avec istiqama pour entre guillemets montrer à Allah que tu as envie de revenir vers lui. Et l'istighfar qu'on va faire de le dernier tiers de la nuit, ça c'est un istighfar qui est magique. Demander pardon à Allah à 4 heures du matin, ça c'est un pardon qui est exceptionnel. Parce que derrière ça, il y a un gros effort. Tu t'es réveillé, tu t'es privé de ton sommeil, tu as fait les ablutions, tu as fait la prière, et c'est un moment où Allah est le plus proche de nous, où Allah exauce les demandes. Également, le jeûne. Les saum nawafil, on ne parle pas de Ramadan. Jeûner le lundi, le jeudi, le 13, 14, 15, ce sont des actions violentes, oui ou non? Quand quelqu'un n'a pas l'habitude de pratiquer, tout d'un coup on lui dit deux saum, deux jeûnes par jour et 3 d'affilée par mois. C'est pas évident. C'est quelque chose de difficile. Se faire violent spirituellement, c'est un électrochoc spirituel. Tu fais un effort. Et Allah, Azza wa Jal, regarde l'effort qu'on fait. Hadith de lequel, Qudsi, Allah Azza wa Jal dit, celui qui se rapproche de lui, hadith est long, hein, celui qui se rapproche de lui d'un pas, Allah se rapproche de lui de 2 pas. Celui qui se rapproche d'Allah d'un empan, Allah se rapproche de lui d'une coudée. C'est-à-dire que tu fais un effort et Allah t'ouvre 2 fois plus les portes. Mais il faut que l'effort vienne de toi. Troisième piste, le dhikrullah. On n'avait pas lu istighfar, mais le dhikrullah, mais à longueur de journée, sans limite. Autant on va faire le dhikr, ça va nourrir le cœur. Ça, c'est le ravitaillement, c'est la richesse du cœur du musulman. Ça va lutter contre la maladie. Donc, on garde ces actions à l'esprit. Demandez beaucoup pardon à Allah Azza wa Jal et on en a grandement besoin. Essayez de faire la prière de la nuit. Essayez de jeûner autant que possible les sommes qui sont nawafil, parce qu'à chaque fois que tu vas casser ton nafs, tu vas aller à l'encontre de ce que ton cœur a envie, tu vas te renforcer spirituellement, tu vas affaiblir ton nafs et tu vas guérir ce cœur. Et en demandant pardon de les derniers tiers de la nuit, ces points noirs qui sont sur le cœur, Ran va inshallah disparaître. Et avec le dhikrullah, ça va nourrir le cœur. Et on va finir par trouver la concentration de la salah et l'envie de lire le Coran et ainsi de suite. Et inshallah, on pourra revenir vers le droit chemin. On a tous besoin de comprendre, de réaliser qu'il y a une maladie dans notre cœur et qu'on a besoin de soigner notre cœur. Qu'Allah nous accepte. On continuera la deuxième partie du verset la prochaine fois. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ jusqu'à la fin du passage de Al-Anfal. Qu'Allah Rabbul Izzah donne la possibilité de comprendre les enseignements et que cela pénètre nos cœurs. Qu'Allah augmente notre amour pour lui. Qu'Allah augmente notre crainte, notre khashiyatullah. Qu'Allah augmente notre confiance en lui et qu'on arrive à avoir vraiment ces qualités intérieures qui vont rejaillir sur la qualité de nos actions extérieures. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.